Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension, wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans. Et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad, Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez le hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, Salam Azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, un programme de Radio Alger Chien 3 qui revient tous les vendredis à 5h et à 14h. Évidemment, toutes nos émissions sont mises en ligne et vous pouvez donc les réécouter à satiété. La mailbox et notre page sur x.com Au cœur de l'islam Chien 3 sont mises à votre disposition pour vos questions et vos commentaires. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors, dans l'émission précédente, celle du vendredi 27 Dhul-Qa'dah, Kamel Shekat est revenu sur un verset primordial et majeur de l'adoration de Dieu et de l'essence même de l'existence des êtres et des créatures. Les exégètes de l'islam ont écrit des pages et des pages au sujet de ce verset fondateur au moment où le cousin du prophète, Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma, pour expliquer ce verset, n'a juste fait que changer un mot. Donc, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pour lui, c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ L'essence même de l'adoration de Dieu ne serait-elle pas l'amour, Kamel Shekat? Car voyez-vous, lorsqu'on prend la peine d'aimer quelqu'un, tous nos sens pencheraient vers lui.
Là, franchement, là, vous placez la barre beaucoup, beaucoup trop. Ah oui, ça n'est pas du tout évident. Ça me rappelle Rabi al-Adawiya qu'on a vu une fois avec un seau d'eau et je pense avec une torche. Elle disait je cherche l'enfer pour l'éteindre et je cherche le paradis pour le brûler. Comme ça, plus personne n'adorera Dieu par intérêt. Vous savez, nous adorons Dieu parce que nous sommes dans l'obligation de le faire, tout simplement. Ce qui va conforter un peu cette idée, c'est le fait que nous sommes programmés pour faire ça. Parce que la tâche, elle n'est pas du tout évidente. Ensuite, nous sommes censés, si le cheminement est bon, si nous allons vers Dieu dans une sorte de quête de ce divin, nous serions amenés à développer une conscience qui fera que nous commencerions à adorer Dieu avec une certaine crainte, parce qu'on prendra conscience de l'entité divine. Normalement, si tout se passe bien, parce que là nous sommes dans ce que nous appelons « maqam min maqamat », l'observation.
Le muraqaba.
Oui. Pas encore. Le mushahada, c'est vous qui l'a développé. Le muraqaba, c'est le fait de savoir que Dieu nous observe. Ensuite, normalement, si tout se passe bien, nous serions comme les gens pieux, des gens qui adoreraient Dieu par amour pour Dieu. Adorer Dieu, c'est aller vers Dieu, observer ses commandements parce que vous n'avez d'autre choix que de le faire. Commençons déjà par ça.
Kamel Shekat, vous avez cité Rabi al-Adawiya, l'initiatrice de l'Ishq al-Ilahi. C'est elle-même qui disait « Ida saha al-wuddu minka fal kullu hayin wa kullu alladhi fawqa turabi turab ». Vous parlez de devoir de vénérer Dieu subhanahu, alors que d'autres parlent, Kamel Shekat, d'amour. Oui. Alors, est-il plus important d'aimer Dieu ou est-ce simplement un devoir? Quand vous voyez des versets comme celui de Sourate Al-Baqara, le verset 165, où il dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » Dans la Sourate Tawba, verset 24, il dit « قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » Vous avez Al-Bayhaqi qui disait que ce verset, justement, ce dernier verset de la sourate At-Tawba, démontre que l'amour de Dieu est une condition de la foi.
Oui, mais attendez, vous êtes en train de parler d'une station qui s'est développée chez certaines personnes à coup d'adoration, justement. Nous, nous sommes à la première marche de l'échelle, à notre niveau.
Comment ça, la première marche, Kamal?
C'est-à-dire que si, d'entrée de jeu, vous allez parler d'amour de Dieu, il y a énormément de gens qui pourront pas suivre le jeu. Pour arriver à cette station de l'amour du divin, ça peut prendre toute une vie. Bien entendu, l'illumination peut venir à tout moment, et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, يفتح على المتأخرين بما لم يفتح به على المتقدمين. Il se peut que Dieu vous ouvre des voies. Ne dit-on pas d'ailleurs que les voies du Seigneur sont impénétrables? Parce que il y a des choses, c'est Dieu qui vous permet d'aboutir à certaines conclusions, d'accéder à certaines stations. Mais il n'en demeure pas moins que la chose nécessite quand même un cheminement. Elle ne se fait pas de manière automatique. C'est pour cela que moi, dans ma manière de voir, je focalise sur l'essentiel, sur ce qui pourrait mener les gens déjà à cette prise de conscience. Et c'est à chacun de faire son travail sur lui-même.
Donc, Kamal Chekat, l'être humain pourrait se lier à quelqu'un. Je ne parle pas forcément ici d'entité divine, même si c'est le but justement de notre émission d'aujourd'hui. L'être humain pourrait se lier à quelqu'un sans avoir un penchant pour lui. Est-ce qu'on pourrait adorer un Dieu auquel nous n'avons aucun penchant, aucun sentiment, aucun intérêt?
Oui, mais c'est justement pourquoi parle-t-on généralement de science, de connaissance de Dieu avant d'aller vers l'adoration.
D'où l'exégèse d'Ibn Abbas.
Oui, c'est-à-dire que on commence déjà par comprendre, par savoir ce que l'on est en train de faire dans ce cheminement religieux, et c'est avec ce savoir que l'on va développer une maturité, une conscience qui nous permet de mieux connaître cette entité divine, de sorte à pouvoir déjà la craindre en un premier temps, on parle d'une peur réfléchie. On sait à qui on a affaire. Et ensuite, quand on prend conscience justement de la miséricorde de Dieu, de sa sagesse, etc., de sa patience surtout. On ne peut plus patient. Dieu pourrait à chaque erreur vous le faire payer cash, mais il ne le fait pas. Vous prenez donc conscience de tous ces attributs divins. Et là, vous commencez à développer un sentiment d'amour pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Al-hubb, hubbullahi wa al-hubbu fidlah. Non seulement vous allez vous mettre à aimer Dieu, vous allez aussi aimer ceux qui aiment Dieu. Ça marche comme ça. Mais placer d'entrée de jeu la barre dans ce que nous appelons maqam al-mahabba, là, vous avez pratiquement brûlé toutes les étapes.
Mais Kamal Chekat, pourquoi lorsqu'un enfant commence à vous poser des questions au sujet de Dieu Subhanahu, je vois des parents autour de nous leur dire « Mais mon fils, Dieu t'aime, Dieu il t'a donné des parents, des jouets, des ceci, des cela, et oui, tu te dois de l'aimer ». On commence par expliquer Dieu à se le représenter à travers l'amour.
Oui.
Pourquoi le fait-on pour l'enfant, mais pas pour les adultes?
Parce que les enfants sont d'une
pureté. Plus matures que les adultes.
Non, ils sont d'une pureté qui leur donne accès à la compréhension de tout cela. Ils le font de manière innée, instinctive. Vous savez, que nous en parlions lors de notre dernière séance. Nous venons d'une dimension où nous avons été en contact avec Dieu. Dieu nous a fait témoigner sur nous-mêmes quant à sa reconnaissance. D'accord. Est-ce que, honnêtement, réfléchissons un peu, que l'on fasse partie de ceux qui croient en Dieu ou pas, vivre un moment pareil, est-ce que ça passerait comme ça? Le fait de vivre ça, est-ce que ça ne laisserait pas dans l'âme humaine des traces indélébiles?
Certainement.
Donc, c'est pour cela qu'il nous arrive de vivre certaines expériences que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que ces expériences nous font revenir justement vers cet état primitif ou primordial.
Certains mettraient ça sur le compte de Husn al-Dhan Billah alors que c'est tout autre chose.
Ça pourrait l'être aussi. Ouais. Ça pourrait l'être aussi. L'idée que je voudrais vous expliquer à nos auditeurs. Vous prenez un bébé, un nourrisson, un enfant de, je sais pas moi, allez, 6 mois. vous le mettez sur une Lamborghini, par exemple, avec un moteur qui développe du 600 décibels ou je ne sais quoi.
Vous n'y allez pas de main morte.
Et il va, et vous le mettez sur le moteur à l'arrière, parce que c'est des tractions arrière. Vous mettez le bébé sur le moteur, vous commencez à circuler, tout le bruit assourdissant que fait le moteur, je vous laisse imaginer la chose. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va endormir l'enfant. Ça pourrait paraître bizarre. Eh ben non. Cet enfant, vous le replongez dans tous les bruits ambiants qui l'ont bercé pendant 9 mois de gestation dans le ventre de sa mère. Vous imaginez tout le bruit que fait notre organisme. Il est en ébullition constante, il travaille de manière constante, donc ça fait du bruit. Et donc, ce que je voulais dire là, c'est que les enfants, pourquoi les enfants sont-ils ouverts à cela? Parce qu'ils sont encore proches, « hadith ou ahdin bitilkal hayat », ils sont encore assez proches de cette vie. Il y a eu la période embryonnaire et il y a eu l'avant embryon, quand leurs âmes étaient encore dans cette sphère qui ne fait pas partie des dimensions de notre Terre. Quand ils viennent dans ce monde, ils sont encore porteurs de cette nature primordiale que nous appelons fétala. Donc quand vous leur parlez de manière simple d'aimer Dieu, etc., ça ne leur pose aucun problème. Sauf que ce sentiment, c'est aux parents justement de jouer pleinement leur rôle afin de le développer, de le rendre plus réfléchi. Nos parents n'ont pas fait Saint-Cyr, hein.
Oui.
Et ils ont su nous transmettre
toutes ces
valeurs.
C'est toute la différence, Kamal Chakat.
Et il est donc la chose...
Les parents d'aujourd'hui, qu'ils m'excusent, sont peut-être trop matérialistes. Et
c'est ça, il faut se défaire un peu de cette matérialité. Mmh. Mais pour ce qui est d'inculquer à l'enfant toutes ces valeurs, la chose peut se faire.
Trouvez-vous, Kamal Chakat, ou faudrait-il trouver des motifs déterminants dans l'amour de Dieu, subhanahu?
Vous savez, si vous arrivez à ce stade, il n'y a plus de motifs. Déjà, si nous nous basions sur l'expérience humaine, en termes de sentiments, ne dit-on pas que le cœur a ses raisons que la raison ne comprend point? La chose n'a pas besoin de mobile ou de motif. Si on est dedans, eh bien on l'est, tout simplement.
Cet adage n'est pas tellement juste, Kamal Chakat. Alors, Hassan Basri,
il n'est pas, non, il est juste. Il n'est pas absolu.
Peut-être.
Mais il est juste. Parce que
moi,
franchement,
il ne me conviendrait pas,
oui,
en tout cas. Alors, Kamal Chakat, Hassan Basri disait que connaître Dieu, c'est l'aimer. Connaître,
oui,
le monde, c'est y renoncer. Certains nous conseillent d'aimer Dieu à travers ses beaux noms, d'essayer de le connaître d'abord à travers ses noms et attributs, bien sûr, Asma al-Kamal ou al-Jalal, qui sont pour Tamalluq, d'autres pour Ta'alluq.
Oui. Bien sûr.
D'accord.
Parce que si vous vous mettiez à les recenser, vous en avez 134.
Donc, la liste de Abdelhalim Mahmoud, par exemple.
Oui, il n'y a pas que lui. Oui. Il y a l'imam Dahabi, il y a bon nombre de grands savants qui ont travaillé sur ça. Mais c'est vrai, à quoi cela vous sert-il de connaître ou de mémoriser par cœur les noms sublimes de Dieu? Si vous n'allez pas les traduire en comportement dans votre quotidien.
Donc, s'exercer à ressembler à Dieu. Est-ce que c'est juste de dire ressembler à Dieu à,
oui,
traverser?
S'imprégner. Vous ne pouvez pas ressembler à Dieu, les sakamit lihiché.
Très bien.
Ne serait-ce que par respect par Dieu, nous ne pouvons pas dire cela, même si nous essayons de le faire.
Dieu est généreux. Je fais mon possible pour être généreuse avec ces créatures.
Oui, vous
c'est pouvez. C'est pas pour devenir un dieu.
Vous pouvez ressembler,
d'accord,
à Dieu, parce que
être passion, être halim.
Parce que vous vous imprégnez d'un attribut divin.
D'accord.
Mais comment justement ressembler entre guillemets à un dieu à travers tous ces noms et attributs divins? Dieu est unique. Wahidun ahad. Est-ce qu'on peut lui ressembler dans cet attribut?
Impossible.
C'est ce que disent beaucoup de gens. Mais en réalité, quand on étudie bien les choses...
Le fardaniya?
Non, c'est pas le fardaniya, c'est le fait de s'illustrer. C'est tamayyuz. Quand on est un véritable croyant, on essaye de s'illustrer par un comportement qui plaît à Dieu. On ne va pas essayer de s'illustrer juste pour devenir hautain, pour l'ita'ali ou tabahi. Non, on le fait parce que c'est dans la nature même de l'être humain que de vouloir se distinguer de la masse. Oui, là, nous sommes dans des comportements où ça concerne des mécanismes sociaux qui peuvent dévoyer une société. On essaye de dépasser tout cela et de se mettre au-dessus de la mêlée. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, était un faiseur de talents, a fait en sorte que chacun de ses compagnons, en fonction de ce qu'il avait comme aptitude et qualité, travaillait sur ses qualités et ses aptitudes pour le rendre encore meilleur.
Qu'est-ce qu'il disait de ses compagnons ?
قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. Donc c'était le plus miséricordieux. وأشدهم في دين الله عمر. Donc c'était Omar était le plus dur quant à l'observance rigoureux. Des commandements. Oui, il était super rigoureux. Il pouvait même être dangereux, Omar ibn Khattab, si vous... Si
Amar tadaniyata fi dinina, ya Rasulallah.
Et donc ensuite il dit, wa aqdahum Ali, le plus apte à rendre le jugement le plus adéquat. Ça nous rappelle un peu cette anecdote que nous avons déjà citée à maintes reprises, cette affaire sur laquelle avait statué Sidna Daoud, alayhi salam. Des bêtes sont entrées de nuit dans un vignoble, elles l'ont saccagé le lendemain, donc il a ordonné que les éleveurs de moutons cèdent leur cheptel au propriétaire du vignoble en guise de réparation. Sidna Souleyman, qui était un peu plus perspicace, a dit non. On donne le cheptel, le troupeau, aux vignerons pendant une année. Ils vont profiter de son usufruit. Les bêtes qui naîtront pendant cette année leur appartiendront. Et pendant ce temps-là, les éleveurs, parce que former un cheptel ne se fait pas en une saison. Les éleveurs, pendant ce temps-là, vont remettre en état le vignoble. Et au terme de l'année, les vignerons restitueront le troupeau aux éleveurs et reprendront leur terre ou leur vignoble. Dieu dit « Fafahamnaha Souleyman ». Donc l'affaire, nous l'avons mieux fait comprendre à Sidna Souleyman. Et aux deux, nous avons donné force de jugement et savoir.
Et vous avez cité l'imam Ali qui avait statué dans nombreuses affaires,
oui,
très complexes.
Très complexes.
Notamment la femme qui était enceinte.
قَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. D'entrée de jeu, il s'est souvenu du verset. وَأَقَلُّ الْحَمْلِ 6 أَشْهُرًا. Donc, أَقْضَاهُمْ عَلِي أَشَدُّهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ. Il était d'une pudeur terrible. À telle enseigne qu'une fois, alors que le messager de Dieu, عليه الصلاة والسلام, était entre ses compagnons, on voyait un peu un bout de son genou et de sa cuisse, et quand il ne s'est pas caché. D'où certains savants ont dit que la cuisse de l'homme, si elle paraît, a dit aura khafifa, comme on dit. Mais quand il a vu Uthman ibn Affan, il s'est caché. On lui a dit, enfin, il s'est recouvert. On lui a dit pourquoi tu ne l'as pas fait avant. Qala Uthman tastahi minhu al-malaika. Les anges éprouvent de la pudeur à côté de lui. Ensuite, il va passer aux autres compagnons, les grands compagnons. Il dit wa afraduhum Zayd. Dans le domaine des successions, c'était Zayd ibn Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad ibn Jabal. C'était un juriste hors pair. Et ça va ainsi. Donc, les compagnons avaient chacun une aptitude qui a été développée par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Suite au siège, j'ai oublié si c'était Khaybar ou bien Bani Nadir, la grande palmeraie a été donnée aux plus riches. Parce que c'était beaucoup d'argent et on ne pouvait pas donner ça à quelqu'un qui ne savait pas manier l'argent. Il fallait que celui qui prenne possession de cette palmeraie soit quelqu'un qui était un bon manager, quoi. C'est ce que faisait le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam. Donc, quand on dit Allahu ahadun ahadun wahidun ahad fardun samad, etc., c'est vrai que le but n'est pas de ressembler à Dieu et de devenir de s'investir d'une entité divine en devenant divin, entre guillemets. Non, c'est s'illustrer par rapport aux autres, essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une assemblée, s'est adressé à ses compagnons et dit « Qui est-ce qui est à jeun aujourd'hui ? Abou Bakr lève la main. Qui a fait des prières nocturnes cette nuit ? Abou Bakr a levé la main. Qui a donné une aumône aujourd'hui ? Abou Bakr. Qui a rendu visite à un malade ? Et c'est toujours Abou Bakr qui lève la main. » Il ne lui a pas dit « Attends, non, ne lève pas toujours la main, ça pourrait faire preuve d'ostentation. » Ria. Non, il fallait donner un exemple à l'ensemble des compagnons et il voulait leur dire « Voilà, il y a parmi vous quelqu'un qui s'est illustré dans ce sentier de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Vous savez, Kamel Chekat, la semaine dernière, on avait parlé de l'explication, l'exégèse de la sourate Al-Asr. Je n'ai pas eu la latitude de le dire la semaine dernière parce que je n'avais pas trouvé mes notes. Mais dans une exégèse de Al-Qurtubi, d'ailleurs reprise même par Cheikh Al-Alawi, l'Asr, c'était Asr al-Nabi, alayhi salatu salam, et c'était Ashraf al-Azmina.
Oui.
Et que, il a l'adina amanu, ça concernait Sayyidina Abu Bakr Siddiq.
Oui.
Wa amilu salihat Sayyidina Omar, wa tawasaw bilhaq, c'était Sayyidina Uthman, wa tawasaw bilsabr, c'est bien sûr Bab Madinat al-Ilm, Sayyidina Ali karamallahu wajha.
Oui. Écoutez, c'est une exégèse. Et wa kullu tafsirin salihun
li zamani. Tafsir ou ta'wil kamal shakat.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Oui, bien sûr. C'est la même chose. Mais moi, je reste dans le sens large du terme. L'ibratu bi'umumi l-lafd. Certains font, on appelle cela isqatat. C'est-à-dire qu'on va donner une lecture au verset.
Des extrapolations.
Qui soit, oui, des extrapolations. Une lecture herméneutique, en
D'accord.
quelque sorte. Madame al-amru la yu'attilu al-shara. Donc la chose n'obstrue pas la loi de Dieu ou ne fait pas obstruction à la loi de Dieu à sa mise en application. Ou bien, donc la chose ne vienne pas bafouer un élément fondamental de la foi. Ça ne pose aucun problème. Mais nous sommes dans une logique qui va dans le sens du contrat social. Et le contrat social, il est résumé justement dans cette sourate. C'est le meilleur des contrats sociaux. Ça veut dire que dès lors où vous êtes dans une société, vous vivez dans le cadre de cette société. Vous ne pouvez pas vous dissocier de la société.
Kamashkat, j'ai un récit à vous dévoiler, à vous et à nos auditeurs, mais je suis sûre que vous le connaissez déjà. Abu Bakr al-Kattani raconte qu'un jour au niveau de la Mecque, alors je lis le texte comme je l'ai trouvé en arabe, قال Abu Bakr al-Kattani rahimahullah ta'ala jarat mas'ala fi al-mahabba bi Makkah a'azzaha Allah ta'ala.
Donc c'est, ils étaient en plein pèlerinage et ils ont parlé de l'amour de Dieu.
Oui. Fatakallama shuyukh fiha wa kana al-Junayd asgharuhum sinnan.
Donc tout le monde s'est mis à parler, le Junayd était présent dans cette assemblée.
Il était le plus jeune.
C'était, donc il n'était pas encore connu comme on le connaît actuellement.
Bien sûr, le disciple de son oncle, Saris Saqati. Faqalu hati ma indak ya Iraqi.
Donc il devait s'exprimer sur le sujet, oui.
Fa'atraqa ra'sahu
wa dama'a. Il a baissé la tête.
Wa dama'at 'aynahu.
Donc ses larmes ont commencé à couler.
Thumma qala.
Puis il dit.
'Abdun dahibun 'an nafsihi.
Là, ça demande... Oui, « Abdun dahibun an nafsihi ». Elle continuait pour essayer de...
« Muttasilun bidhikri rabbihi ».
Donc, le mahabba, c'est-à-dire que celui qui vit cet amour de Dieu, c'est un serviteur qui s'est détaché de lui-même. « Dahibun an nafsihi ».«
Muttasilun bidhikri rabbihi ».
Donc, en rapport constant, en liaison, en lien avec l'évocation de son Seigneur, de Dieu, subhanahu wa ta'ala. «
Qa'imun bi'ada'i huquqihi ».
Donc, observant ses devoirs vis-à-vis de lui. Donc, c'est une entité qu'il voit avec son cœur. La vision, ce n'est pas la vision de l'œil, c'est ce que voient les cœurs. Oui. Donc, les lumières de sa magnificence ont brûlé son cœur. Et justement, ça conforte ce que je vous disais en tout début d'émission. Vous avez parlé d'amour de Dieu, vous imaginez le cheminement qu'il faut faire.
Oui, mais ça n'est pas tout le temps de cette façon-là, ça c'est...
Non, ça ne peut
pas. Junaid.
Non, oui, il était...
C'est pas Bouchra Yahya
ou
Kamel Chekat.
Il était encore jeune.
Oui.
Et il vous explique que c'est un cheminement terrible. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les enfants, c'est pour ça que les enfants avec leur pureté, ils peuvent comprendre cela. Ils le comprennent sans même le comprendre. Je sais pas, ils le vivent. Mais parler d'amour de Dieu, d'entrée de jeu, ça rendrait fou l'initié.
Mais Kamel Chekat, Junaid est élevé dans la maison de Saris Saqati,
le
père du soufisme.
Oui, mais attendez, il a baigné dans un milieu qui était plus que propice à cela. Et puis bon, nous sommes à une époque où les gens, la maturité arrivait très très tôt. Actuellement, vous avez des gamins de 45 ans, 50 ans qui jouent toujours à la PlayStation. Donc attendez, oui. Soyons sérieux.
Je continue quand même le texte, Kamal Chekat.
Allez-y.
عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه
ناظر. Ça c'est le vrai soufisme. C'est pas comme que من أنتم نحن الزهاد الواصلون. Nous sommes les anachorètes aboutis. Nous il a saqar. Nous ne faisons pas la prière, nous ne jeûnons pas parce que Dieu a dit وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. Et à partir de là, nous avons atteint la certitude. Nous n'avons plus rien à prouver à Dieu. C'est faux.
قائم بأداء حقوقه jusqu'à ce que mort s'en suive.
Oui, jusqu'au bout. C'est un vrai soufi, c'est quelqu'un qui observe les lois de Dieu, ses décrets, ses commandements, et a beaucoup de scrupules quant à l'observance aussi de ses limites.
Et plus il connaît Dieu, plus il a l'impression d'avoir une montagne sur ses épaules, plus
absolument,
il est petit. Innama
oui.
Yakhshallah.
Min ibadihi al-ulama'u.
Alors, muttasilun bi dhikri rabbihi, qa'imun bi ada'i huquqihi, nadhirun ilayhi bi qalbihi, ahraqa qalbahu anwara haybatihi, wa safa'a sharbihi min ka'si wuddihi, wa ankashafa lahu al-jabbar.
Oui, alors l'allégorie va un peu plus loin, dans la mesure où il a bu cet amour de Dieu, cette présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il a, il n'a pas cessé de s'en abreuver. Ce qui est synonyme de persévérance dans un cheminement qui consiste à connaître Dieu. Donc nous sommes dans ce que nous appelons التعلم. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم.
Exactement.
C'est-à-dire que plus on s'imprègne d'une chose, plus on devient expert. Là, il est dans un cheminement de quête de Dieu.
D'ailleurs, certains érudits, certains spécialistes du tasawuf, notamment le Rajwiri, auteur du Kashf al-Mahjoub, traduit d'ailleurs par l'immense Nicholson, qui au IIe siècle disait que le Sad de Sophia représentait le Safa, Safa al-Mashrab.
Oui, pourquoi pas.
Alors, وَصَفَأَ شُرْبِهِ مِنْ كَأْسِ بُدِّهِ وَانْكَشَفَ لَهُ الْجَبَّارُ مِنْ أَسْتَارِ غَيْبِهِ.
Le kashf ou bien le mukashafa, c'est les expériences que pourraient vivre les gens qui sont dans cette voie. Et ce qui est sûr avec les grands noms du soufisme, en tout cas ceux qui font référence, c'est qu'ils n'ont jamais fait étalage de ce qu'ils ont vécu comme kashf.
Alors là, j'aimerais avoir votre commentaire. فَإِنْ تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ وَإِنْ نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ وَإِنْ تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ وَإِنْ سَكَنَ فَمَعَ اللَّهِ فَهُوَ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ وَمَعَ اللَّهِ فَبَكَ شُيُخ.
Retraduisons. Alors, فَإِنْ.
فَإِنْ تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ.
Donc, s'il dit quelque chose, c'est par Dieu qu'il le dit. C'est-à-dire qu'il est animé par Dieu, sans pour autant être dans un système d'inspiration divine tel que celui que l'on connaît pour les prophètes. Et ça a rejoint le hadith que vous étiez sur le point de citer. لَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Ça veut dire que au-delà de ce que je lui ai ordonné de faire, il s'adonne à des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit les choses, son ouïe par laquelle il entend, ou يده التي يبطش بها, donc sa main par laquelle il agit, il tient, il, et son pied par lequel التي يمشي بها. Et là, sans pour autant parler d'incarnation, حلول, nous sommes dans une assistance divine qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala va vraiment vous assister en tout. Et là, il dit, أتيته هرولتا.
الله أكبر.
C'est-à-dire, s'il vient en marchant, moi j'irai vers lui en pressant le pas.
وإن نطق فعن الله.
S'il dit un mot comme ça, il le dit parce que c'est Dieu qui l'a voulu. On va traduire comme ça pour que les gens...
Il est complètement immergé en Dieu.
Oui, il n'est pas immergé en Dieu, il est assisté par Dieu.
Assisté, mais immergé aussi dans la connaissance de Dieu, dans son
amour. Dans la connaissance, oui. Parce que si vous dites il est immergé en Dieu ou dans Dieu, ça veut dire que c'est le hal... Oui, nous sommes dans Wihdat al-Hulul et ça, c'est...
Non.
Ça n'est pas du tout, oui.
فَإِنْ تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ وَإِنْ نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ وَإِنْ تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ.
Oui, il agit sous commandement de Dieu.
وإن سكن فمع الله.
Tout simplement.
فهو بالله ولله ومع الله.
Donc il est par Dieu, pour Dieu, avec Dieu.
فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جزاك الله يا تاج العارفين.
Oui, donc il y a plus rien à ajouter à cela. Et là encore, ça me renvoie. On ne peut pas parler d'amour de Dieu d'entrée de jeu. Ça n'est pas possible. C'est un travail fastidieux, laborieux, très dur, qui demande beaucoup de qualité.
Mais Kamashkat, vous ne cessez de répéter à chaque émission que nous sommes programmés pour adorer Dieu.
Oui, ça veut
Donc
dire que la
moitié
chose,
du chemin est déjà faite.
Ça veut dire que la chose est faisable.
Mm-hmm.
Mais attention, ça me rappelle des propos que l'on attribue à l'imam Malik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Ça veut dire que quiconque étudie le droit canon sans faire donner au cœur cette latitude à faire son travail d'être humain, va se dévoyer. Et là, ça me rappelle Cheikh Tahar Ait Al-Jat. Ouais. Pour vous donner une idée du fiqh, de la science des religions ou du droit canon, comment elle s'opère. Ces gens, nous, rappelons-le, des gens sont venus demander à Cheikh Moussa Ismail, voilà, notre père était atteint d'Alzheimer, il est mort, et bon, il n'a pas jeûné un certain nombre d'années, etc. Que devrions-nous faire? Il dit absolument rien, parce que la capacité mentale est une condition sine qua non dans la validité d'un acte. Un fou ne doit pas jeûner, parce qu'il est fou, tout simplement. Il a été déchargé du jeûne. « Ida salab Allahu ma wahab, asqata ma awjab » Quand Dieu vous ôte ce dont il vous a fait don, il vous décharge de ce dont il vous a, ou il vous décharge de ce qu'il vous a rendu obligatoire. Ces gens-là, ils savaient très bien que la réponse, elle était bonne, elle était fondée. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien à dire. Mais on parlait de leur père, qu'on le veuille ou non. Bon, c'est comme si vous admettiez, oui, mon père était fou, il n'était pas dans l'obligation de jeûner. Ils vont voir Cheikh Tahar Ait Al-Jat, rahmatullahi alayhi, qui leur dit, écoutez, « La nu'am ila abakum ala annahu marid » Traiter votre père de personne atteinte de maladie chronique préserverait beaucoup mieux sa dignité. Ça vaut mieux que de le traiter de fou, carrément. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de compenser, de donner une compensation pour chaque jour manqué. Nourrissez un nécessiteux et ça ira. Et quand ils sont revenus à Cheikh Moussa Ismail, Rabbi Hafdo, il a pleuré, il a dit « Ghalabat al-taqwa al-fatwa ». C'est la piété qui l'a emporté sur la connaissance du droit canon. Donc, ça conforte encore plus mon idée. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Il s'est dévergondé, c'est encore pire. Et vous avez cité le Hallaj tout à l'heure. Le Hallaj parlait avec ses émotions. Il était dans l'émotionnel. Il est allé jusqu'à dire Arallaha fi jubbati. Ça veut dire que je suis tellement investi par le divin que je vois Dieu dans ma soutane, en quelque sorte.
Mais ce qui lui avait porté préjudice, Kamal Shakat, c'est Anal Haq.
Oui, mais attendez, ceci émane d'une personne qui a vécu quelque chose de spécial, mais qui n'a pas su en faire part en raison du fait que, sur le plan purement théologique, nous parlons de Ilm al-Kalam, la personne n'était pas tout à fait aboutie. Et c'est pour cela que l'imam Malik disait وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقْ Celui qui allie les deux, c'est-à-dire la connaissance du droit canon et la connaissance de l'éducation spirituelle, تَرْبِيَ رُحِيَّ, s'est confirmé, s'est réalisé en tant que maître.
Ou peut-être qu'il était complètement anéanti en Dieu et donc...
là encore, vous êtes attention, vous
très
êtes...
altéré.
Oui.
Merci de nous accompagner dans cette deuxième partie de Au cœur de l'islam en ces premiers jours de Dhul Hijjah. C'est bientôt l'Eid al-Kbir, l'Eid al-Adha chez nous en Algérie et partout, parce que c'est un événement mondial et je pourrais même dire que le Hajj est un moment cosmique.
C'est clair.
Pour tout l'univers.
Absolument.
Alors, Kamal Shakat, le pèlerinage est-il l'ultime exercice qui révélerait ce verset de la Sourate Al-Ma'ida, Yuhibbuhum wa Yuhibbunahu?
Dans les rituels du pèlerinage, le fait d'être habillé de deux bouts de tissu qui forment l'habit de l'Ihram, l'habit de sacralisation, deux pagnes, sans couture, sans rien, qui font que le milliardaire et le plus démuni des musulmans sont à pied d'égalité. Vous savez, il faut vivre le moment, surtout quand il y a cette marée humaine qui revient de Arafat. en allant vers Muzdalifa. Vous savez, ça fait peur. Ça
cette
fait
position déjà sur le mont Arafat Kemal Shekat toute la journée.
Oui, mais
qu'est-ce
attendez,
qu'ils
non.
attendent, le qu'est-ce retour, qu'ils cherchent.
Le retour, la marée humaine que vous voyez là comme ça, franchement, ça vous rappelle l'Akhira. C'est comme si les gens Mahshar. Allaient vers la terre du Mahshar. Rassemblement. Ardul Mahshar. Tout ceci rejoint, vous avez cité tout à l'heure le Fana, le fait de s'anéantir devant Dieu. Et là, nous sommes dans une dissolution de l'ego qui est incroyable. C'est là l'une des retombées, on va dire, sociales, ou bien l'une des remarques que ferait un spécialiste en sciences sociales. C'est la dissolution de l'ego. Il y a ensuite, vous avez une prise de conscience de groupe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas consciente uniquement par vous-même, mais vous êtes consciente dans un groupe. Vous faites partie d'une entité. Cette prise de conscience, c'est elle qui a opéré tous ces changements, toutes ces mutations chez Malcolm X, par exemple. Il était à la limite voyou, hein. Il était raciste, c'était dû au fait qu'il a subi toutes ces brimades.
Hein, ouais.
Mais quand il est revenu du pèlerinage, c'était un autre homme. Et c'est là qu'il est devenu encore plus dangereux. Et c'est pour cela qu'on l'a tué. Quand il donnait motif aux Blancs de mal juger les Noirs par certains comportements extrémistes, il était bon, il faisait l'affaire. Mais quand il est devenu un véritable musulman, ça posait problème. Ce qui est bien, c'est que dans
c'est
sa lettre...
C'est lui qui a rencontré Tahar Gaïd. Tahar
Gaïd, oui.
Exactement. Il a beaucoup appris auprès de lui.
Il parle d'un diplomate, etc. C'était Tahar Gaïd, l'Arhamo. Tahar Gaïd est un homme blanc. C'est un kabyle, ouais. Tahar Gaïd. Le frère de Malika Gaïd, l'Arhamo. Et Tahar Gaïd, surtout quand il était jeune, quand on le voyait, c'était le type européen. Et Malcolm X ne savait pas qu'il existait dans le monde des hommes blancs avec cette douceur et en Afrique, etc. Donc c'est... Et donc, il y a aussi ce que, sur le plan psychologique, on appelle le catharsis. Le catharsis, c'est le fait de se purifier émotionnellement. Le pèlerinage vous donne ça. Et puis, il y a ce que les sciences humaines appellent le mindfulness. C'est-à-dire que vous êtes dans une conscience qui est optimale et qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. Et ça se fait à partir de toutes ces évocations, toute cette immersion que vous allez faire pendant votre pèlerinage. C'est pour cela que ceux qui ont pu vivre cela en tant que voyage initiatique sont revenus comme le jour où leur mère les avait mis au monde. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes déchargé de tout ce qui était mauvais en vous, vous l'avez laissé là-bas et vous êtes revenu comme étant un nouveau-né pratiquement.
Est-ce qu'on prend conscience justement de ce nouvel état, Kamashaka?
Oui, absolument. C'est pour cela qu'il ne faut pas, je suis contre les gens qui font leur pèlerinage chaque année. L'idéal, même quand on a beaucoup de moyens, l'idéal c'est de faire un pèlerinage tous les 5 ans. Parce que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans ce que rapporte normalement le Bukhari, quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit lors d'un serment aux gens, Dieu vous a prescrit le pèlerinage, faites-le donc. Il y a un compagnon, certains disent que c'est l'Aqra ibn Hanbis qui disait à kulla amin ya Rasulallah, est-ce que nous devons faire cela chaque année? Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est tué jusqu'à ce que l'homme répéta la question 3 fois. À 3 reprises. Et là, il vous dit « Daruni mataraktukum ». Donc, tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas à son sujet. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leur non-conformité avec leur prophète. Et là, il dit « Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez ». Ça veut dire que la chose est liée à la capacité de l'homme à observer le commandement de Dieu. Et quand je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. « Ma amartukum bihi fa Donc, un pèlerinage, Hijjat l'Islam, c'est ce que vous faites la première fois. Ça vaut pour toute la vie. Parce que si Dieu avait rendu la chose obligatoire, comme si je vous disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous n'en seriez pas capable. C'est clair. C'est pour ça que je vous dis que oui, on peut vivre tout cela pendant le pèlerinage, à condition, honnêtement, de ne pas le faire chaque année. Parce que beaucoup de ceux qui le font à répétition, ils éprouvent à chaque fois que la période du pèlerinage arrive, ils éprouvent ce besoin d'aller là-bas. Mais ça devient du tourisme.
Hein. Pas pour tout le monde, Kamal Shekat.
Je l'espère, mais pour beaucoup de ceux qui y sont allés vraiment à maintes reprises, On n'a pas constaté de changement. Ce n'était pas comme leur première fois et ça n'était pas comme c'est le cas pour ceux qui y vont une fois, je sais pas moi, tous les 7 ans, tous les 5 ans. C'est pour cela que je le dis à ceux qui en ont vraiment la possibilité, n'y allez pas chaque année. Renouez avec Dieu une fois tous les 5 ans et profitez ou gardez-vous dans cet état de pureté avec laquelle revient celui qui a accompli son pèlerinage comme il se doit. Moi, c'est mon conseil.
Moi, j'ai vu des gens, Kemal Chakat, qui sont revenus sans leur cœur. Le cœur est resté à la Mecque et à Médine. Qui sont branchés sur la chaîne de Coran, Saoudi Coran ou Saoudi
Sunna,
oui. Toute la journée.
Oui.
Qui ne cessent de parler que de ça et qui ne rêvent que de retourner là-bas et d'être enterrés là-bas.
Oui, c'est clair, bien sûr.
Que c'est une perception, c'est une maturité. C'est une conscience à ces endroits qui sont des joyaux de l'univers, Kemal Chakat.
Absolument, vous vivez c'est une expérience incroyable, hein? Incroyable. Vous savez, je sais parce que la personne en question faisait partie de mon entourage, on va dire, presque immédiat par alliance. C'était un athéiste qui a été envoyé par un média étranger, hein, pour aller là-bas justement couvrir les rituels, etc. Comme c'était un arabe, en dépit du fait qu'il était athéiste, c'était un communiste, mais journaliste quand même de renom, il est allé dans les lieux saints de l'islam et bon, parce qu'il avait un nom arabe, etc. Donc ça passait. Et quand il était là-bas, il n'a absolument rien fait, hein. C'est-à-dire qu'il était là, c'était le touriste.
Juste pour la couverture.
Pour la couverture. Bien sûr, il s'est habillé comme tout le monde, avec le pagne, etc. Les deux pagnes plutôt. Il a fait son immersion et à son retour, il lui-même racontait qu'il avait vécu une expérience qui était un peu spéciale.
C'est-à-dire l'Iyad.
Oui. C'est-à-dire que, en dépit du fait que lui, il était là-bas pour des raisons purement professionnelles, il n'a pas pu se défaire justement totalement du lieu, de son ambiance, de tout ce dont il était chargé. Il a vécu des choses que lui-même n'arrivait pas à expliquer.
Qu'il avait changé après son retour?
Il a quand même, il ne se disait plus communiste, athéiste, il se disait pratiquement musulman, quelque peu égaré ou quelque chose comme ça. Mais ça a apporté quand même un changement en lui.
Il y a quelqu'un qui répétait ces dernières années dans ses émissions cette phrase qui m'a vraiment marqué. Imma an tadhhaba ila Allah bi nafsika aw ya'ti bika harwalatan.
Oui, absolument.
Quand il y a cette sélection de
Dieu qui c'est Dieu qui fait que
qui vous
choisit, oui.
Wastafaytuka li nafsi.
Oui.
Wow. Quelles sont les dimensions spirituelles du Hajj, Kemal Chakat, outre la purification, le repentir, cette humilité face à Dieu, cette unité avec des millions de frères de foi, par exemple le tawaf, le sa'y,
oui.
Par exemple, quelles sont les dimensions spirituelles du rajm,
Rami al-Jamarat? D'ailleurs, beaucoup de gens nous disent, écoutez, les gestes que matérialisent les pèlerins pendant leur pèlerinage, c'est des gestes qui sont liés à l'histoire, en fait. On va immoler un mouton le jour de l'Aïd pour tous ceux qui sont ici, qui sont dans le monde, parce que la symbolique, c'était que Sidna Ibrahim, alayhi salam, avait reçu l'ordre d'immoler son fils Ismaïl. Et il a fait ce que Dieu a voulu de lui. D'ailleurs, il a ce fils qu'il a attendu pendant des années. Quand il l'a eu, alors qu'il était nourrisson, il reçoit l'ordre d'aller le déposer quelque part au milieu de nulle part, dans une vallée sans verdure. Biwadin ghayri di zar'in 'inda baytika al-muharram. Vous imaginez.
Donc ça existait avant, 'inda baytika al-muharram.
Non, mais ça peut vouloir dire aussi dans ce qui deviendra ta maison sacrée.
D'accord.
L'arabe taqulu 'an al-qafilati qafilatan taymunan bi'audatiha. Quand on dit qafila, quand on dit qafala fulan, ça veut dire qu'il est revenu. La caravane, si je devais traduire cela littéralement, ça pourrait vouloir dire la revenante, en quelque sorte. Parce que le qafila, on espère de ces gens qui sortent pour du négoce ou en voyage, qu'ils reviennent sains et saufs. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on l'a appelé le qafila. Et donc, les inda baytika al-muharram, ça peut aussi vouloir dire, voilà, dans ce qui deviendra ta maison sacrée. Cela dit, nous avons des savants qui disent que cet endroit avait connu un lieu de culte qui a été détruit après le Tufan. Même si, là encore, dans le Coran, le déluge n'était pas universel. Le déluge s'est opéré dans un espace géographique bien déterminé. Donc, pour revenir à votre question, Sidna Ibrahim donc va laisser sa progéniture dans un endroit où il devait faire confiance à Dieu, hein, parce que
quel yaqin.
Oui. Et ensuite, quand cet enfant sera en âge de marcher à côté de lui, falamma balagha ma'ahu sa'y. Ça veut dire qu'Ismaïl alayhi salam est devenu plus âgé. Donc là, l'attitude du père, normalement, il est plus marqué par cette présence. Et là, on va lui dire, tu dois immoler ton enfant. Et il va le faire. Il va passer l'épreuve avec succès. Et c'est à partir de là qu'a été instituée cette tradition qui consiste à immoler un mouton le jour du sacrifice. D'accord.
Donc lié à l'histoire, là, mais aussi ça parle aussi d'une foi ancrée.
Oui, ça donne un enseignement. Mmh. Et là, pour ceux qui nous disent, voilà, vous, ce que vous faites, c'est lié à l'histoire. Safa et le Marwa, c'est lié aussi à cette détresse de Sayyida Hajar.
Quelle grande dame.
Qui allait d'un endroit à un autre sur les deux monticules. Ça fait quelque chose comme, je sais pas moi, 300, 400 mètres. Nous, quand nous faisons ce parcours, nous le faisons dans une ambiance
joyeuse,
optimale. Mais attendez, vous avez la clim, vous avez tout. C'est, imaginez la dame qui était dans un désert et qui aller vers chacun de ces deux monts dans l'espoir d'être un peu en hauteur et de voir au loin ne serait-ce qu'une caravane, jusqu'à ce que l'eau de Zamzam jaillisse.
Mais au préalable, délaissé par son mari, il a mentatrkuna ya Ibrahim.
Là aussi, il n'y a pas que Sidna Ibrahim qui a fait preuve de certitude.
Les femmes en islam, comme
elle même elle, elle a fait, elle a été, parce qu'elle, à un moment donné, elle a dit, est-ce de ton propre chef que tu fais cela ou est-ce un commandement qui t'a été donné par Dieu? Et il a dit, c'est Dieu. Donc Dieu ne nous laissera point. Jusqu'à ce stade, certains pourraient me dire, oui, mais attends, là, tu nous parles de faits historiques liés à des personnages qui font partie de l'élite, de ceux que Dieu a élus pour transmettre son message et ses enseignements. Pour ce qui est de Tawaf, la circumambulation, pourquoi nous, le pagne du haut, nous dénudons l'épaule droite et que nous faisons passer notre pagne, nous le faisons passer sous l'aisselle gauche. Pourquoi est-ce que pendant les trois premiers tours, nous le faisons avec un pas pressé? La chose est liée à, aussi, là encore, à des faits historiques. Quand il y a eu Umratul Qada, le prophète, alayhi salatu wassalam, savait que certains des mécréants voulaient tenter de perturber un peu l'Umra des musulmans. Parce qu'ils devaient, les accords de l'Hudaybiyah stipulaient que les Mekkois polythéistes devaient libérer l'espace pour laisser aux musulmans le champ pour faire leur Umra, parce qu'ils ne le faisaient pas comme les autres. Ils avaient des rituels qui intégraient ce qui se faisait à l'époque même de Sidna Ibrahim. Alors qu'il y a eu une rumeur qui disait que voilà, les Médinois qui vont venir, ils sont atteints de la fièvre de Yathrib. Donc ils sont un peu chancelants, ils sont un peu malades, dans un état fébrile, ce qui aurait pu pousser certains à aller aussi loin que possible dans la perturbation de tous les rituels de la Umra qu'allaient accomplir les musulmans. Et c'est là qu'il leur a donc, il a mis les jeunes en premier lieu pour dissuader un peu l'ennemi, entre guillemets, et il leur a demandé de presser le pas pendant les trois premiers tours, ce qui a fait dire à certains polythéistes, c'est de cela que vous parlez quand vous dites qu'ils sont atteints de la fièvre de Yathrib. Et donc ça a dissuadé tout le monde. Mais là encore, si certains seraient tentés de me dire, mais attends, là, un fait historique devient un fait hautement religieux. C'est un fait, oui, ça devient hautement religieux. Nous reproduisons des gestes qui font partie de ce qui a été fait par les premiers musulmans. Ces gens-là, quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, leur a dit de faire ça, est-ce qu'ils ont posé des questions? Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont fait ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a commandé de faire. Ensuite, nous savons que l'être humain est sentimentalement et émotionnellement attaché à ce que faisaient ses anciens. Même ceux qui se sont opposés aux messagers l'ont dit. Nous ne faisons que suivre ce qui a été observé par nos pieux, par nos prédécesseurs. Nous ne répétons que ce qui a été fait par nos anciens. Et cette gestuelle, ces rituels du pèlerinage s'inscrivent justement dans cette marche, cette progression, cette évolution de l'adoration de Dieu, du monothéisme, telle qu'elle s'est pratiquée sur depuis des temps immémoriaux, tout simplement. Et il n'y a aucun mal à ce que nous soyons dans cette logique.
Ça rappelle un peu ce que disent certains tajdid l'ahd.
Oui, c'est ça.
Avec Dieu, avec les prophètes.
La chose a été ordonnée par le messager de Dieu, alayhi salatu salam. Ce n'est que quand cette secte des coranistes a pris son ampleur, a connu le succès ou bien l'évolution qu'elle connaît actuellement, ce n'est pas un succès, c'est un retentissement tout au plus. Ce n'est que maintenant que ces gestes prennent toutes leurs dimensions et deviennent hautement importants. Nous, musulmans du 21e siècle, sommes en train de procéder ou de faire ce qui nous a été ordonné par notre messager. Vous, la secte satanique, qui voulez vous faire passer pour les plus méritants en termes d'observance des décrets de Dieu, vous êtes en porte-à-faux parce que vous êtes en train d'instituer une secte et vous n'êtes en rien de ce qui est souhaité par la religion musulmane.
Kamel Chekat, le fait d'aller faire son pèlerinage, c'est une façon de signifier son amour pour Dieu. Et d'ailleurs, on en a parlé dans le verset, Yuhibuhum wa yuhibunahu. Certains nous reprocheraient encore une fois cette soumission à Dieu. Mais insistons sur les rites institués par Sidna Ibrahim et les autres institués par Sidna Mohammed alayhi salatu wasalam. Quel est l'intérêt d'immortaliser ou de ritualiser, par exemple, la détresse de Sayyida Hajar? Qui était Sayyida Hajar?
Oui.
Ou bien ce fameux lancer de pierre qui symbolise le rejet de Satan.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à percevoir comme message, Kamel Chekat?
Écoutez, l'épisode de Safa ou Marwa vous rappelle que pour peu que vous placiez votre confiance en Dieu, Dieu sera toujours là pour vous assister. Et c'est ce qui s'est produit.
Ouais.
Et pour ce qui est de la lapidation des trois stèles, Rmi al-Jamarat ou bien le Jimar, ça rappelle que Satan est toujours là. Il essaiera toujours de vous détourner de ce droit chemin. C'est-à-dire aussi, ce que vous jugez secondaire ou dénué de sens, ben, il s'en accommodera. Et c'est toute sa malice. C'est là que réside toute sa malice.
Je vous remercie, Kamel Chekat, pour tous ces détails. Alors, bientôt, l'Aïd Kbir, l'Aïd Al-Adha.
Inch'Allah.
Un mot pour nos auditeurs, Kamel Chekat.
Écoutez, je voudrais m'adresser à ces gens qui profitent de ces moments hautement spirituels pour se faire de l'argent et pour briser le charme, justement, de ces moments. Les éleveurs de cheptel. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu le jour du jugement dernier? Un mouton qui fait 160 000 dinars alors que nous savons très bien qu'en réalité, il ne dépasse guère les 50 000 dinars. Vous savez, j'ai travaillé dans les fruits et légumes. J'ai roulé ma bosse, hein, comme on dit. Et je connais bien ce système. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. Vous êtes pareil à ceux qui nous vendent la sardine à 1600 dinars le kilo. Dernièrement, je voyais un poste qui disait...
Une sardine avec moustache.
La sardine, elle est aujourd'hui à 1700 dinars, mais c'est normal, elle nous vient du détroit d'Ormuz. Oui, parce que le détroit d'Ormuz, il est bloqué, donc comme la sardine vient de là-bas, le temps... C'est la période du temps. Normalement, vous devriez le trouver à des prix défiant toute concurrence. Et non, les gens-là, c'est la spéculation à outrance. Vous l'achetez en quatrième, cinquième, sixième ou septième main, je ne sais quoi, je ne sais plus. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que ces temps, ils ont été nourris, gavés au caviar pour coûter aussi cher. Subhanallah, c'est Dieu qui vous les a donnés à travers cette mer qui vous est ouverte. Vous sortez, vous prenez un temps, vous revenez vers la terre ferme, vous le vendez à prix d'or, comme ça, parce que vous êtes détenteur d'un produit qui est prisé par les gens. Ça me fait mal de voir, spécialement en Algérie, hein, parce que vous allez partout dans le monde, ça ne se passe pas comme ça. Mais chez nous, Hanafi Bladna, yani Al-Jazairi, malheureusement, il est comme ça. Dès lors où il détient quelque chose entre les mains, il devient, comme dirait l'autre, Dieu le Père. C'est ça le problème. Et ça, honnêtement, ça fait mal. Vous êtes en train de mettre à mal toute une population. Vous êtes en train de porter atteinte à la religion de Dieu. Vous êtes en train d'introduire la tristesse dans bon nombre de familles. Et un jour viendra où vous devrez, où
répondre
vous allez devoir
actes.
Le payer. Inch'Allah.
Ouais. Je vous remercie, Kamal Chakat. Alors, je terminerai avec quelques points donc énoncés par Ibn Qayyim al-Jawziya.
Oui.
Dans son livre Madarij Salikin. Alors, les moyens d'accès à l'amour de Dieu, lire le Coran avec méditation et effort de compréhension, se rapprocher de Dieu par les exercices surérogatoires, nawafil, oui. Évoquer le nom du Seigneur en toutes circonstances, préférer ce qu'il aime, lui, à ce qu'on aime, nous,
oui.
Dans les moments de passion forte, faire en sorte que le cœur évoque constamment ses noms et ses attributs, faire en sorte que le cœur fasse acte de contrition parfaite avec Dieu, devant Dieu, s'isoler avec lui au moment de la descente divine afin de lui parler en privé.
C'est aussi dans la salat, au troisième tiers de la nuit.
S'asseoir en compagnie des amis vertueux et recueillir les meilleurs fruits.
Saliha, comme on dit.
Et puis enfin, s'éloigner de tout ce qui peut constituer un obstacle entre le cœur et le Seigneur.
Et vous voyez que c'est un cheminement qui n'est pas du tout facile si vous voulez accéder à l'amour de Dieu.
Pourquoi pas, Kamal Chakat?
Non, je ne dis pas que la chose est impossible. Je vous dis, depuis tout à l'heure, elle est faisable,
oui.
Mais c'est un chemin pénible.
Tout est pénible.
Oui. On commence par d'autres paliers qui sont plus accessibles.
Mieux vaut sabr ala ta'at que sabr ala al-masiyah.
Oui, c'est clair.
Exactement. Je vous remercie, Kamal Chakat. Merci à vous de nous avoir suivis. Saha idkoum, kul am antoum abkhir, saha washirkoum. Et puis, rappelez-vous des gens que vous aimez, des gens qui ont été là à un moment donné, qui vous ont tout donné. La yarhamhum. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.